Chapitre 26. La première chose que fit Louis lorsqu'il eut quitté le marquis fut d'appeler Valérie. « Par ordre de mon cousin, dit-il au valet de chambre, c'est moi qui suis maître ici. Désormais, vous voudrez donc bien n'obéir qu'à moi seul. Vous allez transmettre ces instructions aux gens du château en les avertissant que celui d'entre eux qui ne s'y conformerait pas strictement serait renvoyé. Conduisez-moi à l'appartement de Madame Beaujonnier. » Valérie ne répliqua pas. Il avait été témoin de ce qui s'était passé dans la journée, et bien qu'il n'eût pas entendu ce qui s'était dit, il en savait assez pour comprendre qu'une révolution s'était accomplie. La dynastie Clémence avait cessé de régner. Il était de la race de ceux qui acceptent facilement les révolutions. Il avait été fidèle, dans la limite du possible, au pouvoir tombé. Dans les mêmes limites, il serait fidèle aussi au pouvoir nouveau. Peu importe que les hommes disparaissent, si les places ne sont pas emportées avec eux, Dieu merci, on pourrait encore servir, ce qui était le point important. Si, avec des rois légitimes, il y a moins à gagner qu'avec des parvenus, qui, par leur origine, sont condamnés à tenir leurs mains ouvertes et leurs yeux fermés pour ceux qui les ont aidés à arriver au pouvoir, il y a plus d'honneur avec ces rois, et pour un homme tel que lui, l'honneur était quelque chose. Louis n'entra dans l'appartement de Clémence que pour fermer à clé en dedans les portes extérieures. Il en fit autant pour les portes de l'appartement du marquis, ne laissant ouvertes que la porte en communication avec la bibliothèque. Alors il s'installa dans cette pièce, donnant l'ordre qu'on dit à Madame Beaujonnier, lorsqu'elle arriverait, qu'il l'attendait là. Il était assis à peine depuis quelques minutes, réfléchissant à ce qui lui restait à faire, lorsqu'il vit entrer son oncle. « Ah ça, mon cher garçon, dit M. de Carquebute, venant à lui avec des manières affectueuses, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Est-ce que notre pauvre Arthur est plus mal? J'ai vu venir le docteur Gilet, puis tu as amené le bonhomme Marbeuf. Qu'est-ce que tout cela signifie? Mon cousin vous l'expliquera demain. Est-ce que tu vas faire le malin avec moi? Je fais ce que je dois. C'est bon avec un étranger, ces manières-là. » Mais je suis ton oncle, je suis le cousin d'Arthur, et il me semble que tu peux bien rassurer mon inquiétude. Oh, pour cela, parfaitement. Monsieur Gilet pense qu'avec le nouveau régime qu'il conseille, notre cousin vivra 20 ans encore. Monsieur de Carquebute fit une affreuse grimace. Quel régime, dit-il. Demain, vous interrogerez notre cousin. Il vous répondra. Pour moi, je vous ai rassuré, c'est tout ce que je peux faire. Monsieur de Carquebute fit 2 ou 3 fois le tour de la bibliothèque en sifflant, ce qui, chez lui, était un signe avant-coureur de l'orage. « C'est vrai, dit-il en revenant vers son neveu, ce que racontent les domestiques, que le marquis veut rompre avec Madame Beaujonnier et que c'est toi qui deviens le maître de la maison. Pour cela, vous trouverez bon que je vous renvoie à mon cousin. C'est à lui de faire connaître ses volontés. Demain, vous l'interrogerez et il vous répondra ou ne vous répondra pas. » « Tu sais que tu m'ennuies à la fin ?» s'écria M. de Carquebute en éclatant. Sans se troubler, Louis répondit qu'il regrettait de ne pas pouvoir agir autrement, mais que rien ne le ferait sortir de la réserve qu'il croyait devoir garder. M. de Carquebute se fâcha, s'adoucit, se refâcha, cria, pria, Louis ne répondit rien. Au bout d'une demi-heure, il déclara froidement qu'il avait besoin d'être seul et qu'il priait son oncle de bien vouloir se retirer. En effet, il attendait Clémence d'un moment à l'autre et il ne voulait pas que son oncle fût entière dans leur entretien. Sorti furieux de la bibliothèque, M. de Carquebute monta à sa chambre et, ayant revêtu la peau de bique qui lui servait à la chasse, s'étant coiffé d'une casquette de loutre, il alla se poster dans la côte pour arrêter Clémence au passage. Avec elle, il espérait bien faire une rentrée triomphante et jeter dehors cet insolent magistrat. Mais les heures s'écoulèrent sans que Clémence parût. Et M. de Carquebute, dans la côte, où il jurait pour se réchauffer, Louis, dans la bibliothèque, passèrent la nuit à l'attendre. Quand reviendrait-elle ? Les combinaisons de Louis se trouvèrent bouleversées par ce retard. Avec l'arrivée de Clémence dans la nuit, son plan, en effet, était des plus simples. Après l'explication décisive avec elle, il faisait, dès le lendemain matin, écrire par le marquis une lettre à l'abbé Guillemite pour obtenir de celui-ci l'ordre de remettre Denise à Madame Méraud. Aussitôt cet ordre obtenu, il l'envoyait par un exprès à sa mère, car il ne voulait pas quitter le château, de peur d'un retour de Clémence, et en moins de 24 heures, ils étaient tous réunis à Rudemont. Mais cette explication n'ayant pas eu lieu, il ne devait plus procéder ainsi, car il ne fallait pas exposer Denise à être témoin des scènes qui pouvaient surgir à l'arrivée de Clémence. Qui sait à quelles extrémités une femme exaspérée ne pouvait-elle pas se porter ? Pour que Denise n'assistât pas sûrement à ces scènes, il n'y avait qu'un moyen, c'était d'attendre cette arrivée avant d'écrire la lettre. Le rappel de l'une suivant le départ de l'autre, toute rencontre devenait impossible. À procéder ainsi, il voyait bien un inconvénient qui était de laisser le marquis livré au chagrin de cette rupture et à l'ennui de la solitude sans lui donner tout de suite la puissante diversion que Denise apporterait par sa seule présence. Cependant, il pensa que ce parti de l'attente était encore le plus sage à prendre et il le prit. En prévoyant que le marquis supporterait difficilement cette première journée, il ne s'était pas trompé. Le marquis s'éveilla de bonne heure et quand il vit Louis entrer dans sa chambre, son premier mot fut pour demander ce qui s'était passé dans la nuit. « Rien, elle n'est pas rentrée. » Alors ce furent des questions et des hypothèses sans fin pour expliquer cette absence. Elle était peut-être malade, dans ce cas, il faudrait différer la séparation pour ne pas lui porter un coup sensible. Le temps fut long à passer jusqu'au déjeuner qu'on servit dans la chambre du marquis pour éviter M. de Carquebut. Louis avait espéré qu'à table, il aurait un moment de répit, mais il ne savait pas, comme Clémence, faire manger le marquis, et ce qui devait lui être un allègement lui fut au contraire un embarras de plus. Puis les heures recommencèrent à marcher avec une lenteur désespérante. Il s'ingéniait à trouver des sujets de conversation, mais ils étaient bien vite épuisés, et alors le silence reprenait, silence pénible, coupé seulement par les soupirs du marquis. Le dîner arriva. Le marquis n'avait pas faim, il refusa de manger. Pourquoi n'était-elle pas revenue ? Ce fut la question que, de quart d'heure en quart d'heure, il répéta toute la soirée. Le coucher fut un grand soulagement pour Louis, mais avant de quitter son cousin, il fallut qu'il lui promît de ne pas se mettre au lit. « Sois debout pour la recevoir, dit le marquis, car je te préviens que, si elle entre dans cette chambre, je n'aurai jamais la force de pousser jusqu'au bout cette rupture cruelle. Je l'aime trop. » Louis parla du docteur Gillet, de M. de Marbeuf, de Denise, et recommença pour la 10e fois ses exhortations. « Tout cela est juste, disait le marquis, je le sais comme toi, mais je l'aime. » Pour la seconde fois, Louis s'installa dans la bibliothèque. Ce fut seulement à 5 heures du matin qu'il entendit un bruit de roues sur le gravier de l'esplanade, car Clémence, retenue à Paris par le général Poirier, n'avait pu prendre que le train de nuit. Vivement, il alla à la fenêtre et regarda. C'était elle qui descendait de voiture. Au lieu d'attendre qu'elle vînt le trouver, il résolut d'aller au-devant d'elle. Lorsqu'il arriva dans le vestibule, elle était en conversation avec Valérie, qui lui parlait respectueusement. Lorsqu'elle aperçut Louis, elle quitta le valet de chambre pour s'avancer vers lui. Louis la regarda venir. Elle était pâle, mais elle ne paraissait pas troublée. « C'est pour reprendre notre conversation au point où elle a été interrompue que vous m'attendez ? » dit-elle en tenant les yeux levés sur lui. « Mon Dieu, non, car cette conversation m'a appris tout ce que j'avais intérêt à savoir. » « Je vous attends simplement pour vous faire une communication de la part de mon cousin. Si vous voulez bien me suivre dans la bibliothèque, nous y serons mieux qu'ici. »« Volontiers !» En arrivant dans la bibliothèque, Clémence jeta un regard rapide autour d'elle. À la disposition d'un fauteuil auprès d'une table sur laquelle étaient des livres ouverts et une lampe, elle vit comment Louis avait passé la nuit. Il lui tendit la lettre qu'il avait fait signer au marquis. « Voici cette communication, dit-il. « Une lettre ?»« De mon cousin. » « Écrite par monsieur le marquis ?»« écrite par moi, signée par lui, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que celles que vous m'envoyez d'Italie. Alors je n'ai pas à la lire. Je crois que vous auriez tort. Outre la lettre, il y a un mot, écrit de la main même de mon cousin, qui a un intérêt pour vous. Alors, voyons. » Elle lut d'abord le bon à toucher chez le notaire, et Louis remarqua que ses mains étaient agitées par un léger tremblement. Puis elle lut la lettre. Alors elle plia le bon en quatre, et le tendant à Louis, « Voulez-vous dire à monsieur le marquis que j'accepte le congé, mais non l'argent ?» Sans rien répliquer, Louis prit le bon et le mit dans sa poche. « Vous lui direz encore, continua-t-elle, que... » Mais elle s'arrêta. « Toutes vos paroles lui seront fidèlement rapportées, dit Louis. « Je n'en doute pas et je vous remercie, mais j'ai réfléchi qu'il valait mieux ne rien dire. » Après un moment de silence, elle reprit. « Un mot seulement. Puis-je entrer dans mon appartement ?»« Parfaitement. » Mais comme elle s'éloignait, Louis ajouta. « Je dois cependant vous prévenir qu'il serait inutile de vouloir entrer chez mon cousin. Les portes de communication sont fermées à clé et les clés sont en dedans. » Elle se mordit les lèvres. « Alors, dit-elle, c'est bien. Je vois que je n'ai plus rien à faire ici. Vos précautions sont prises, vous avez pensé à tout. » Je n'ose m'en flatter. Mais si, tout cela a été très bien conduit par vous. Mes compliments sincères. D'une personne telle que vous, ils sont pour moi d'un grand prix. J'ai été une sotte, ne m'accablez pas de votre triomphe. Au revoir, monsieur. Louis la reconduisit jusqu'au perron et il la vit s'éloigner sans retourner la tête une seule fois vers le château.